Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
A tout de suite sur Sud Radio, Xavier Demoulin est mon invité pour parler du 1945 sur M6 qui fête ses 10 ans. Et puis c'est le 11 septembre aujourd'hui, l'occasion de revenir sur les nombreuses théories du complot autour de cet attentat. C'était le 11 septembre 2001. On sera avec Christophe Bourseiller, journaliste, historien, qui propose une série formidable sur la chaîne Histoire. C'est un complot. Et Rudy Reichstag qui publie L'Opium des imbéciles. Il est cofondateur de Conspiracy Watch. Ce sera à 10h30. A tout de suite, 0826 300 300, appelez-nous pour réagir.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2h, 11h midi, l'actualité commentée par mes invités, par les éditorialistes. On reviendra évidemment sur la polémique autour des insultes homophobes dans les stades. On reviendra sur la GPA, les choses ont l'air de se clarifier un petit peu plus du côté du gouvernement. On parlera de la sortie du livre de Tariq Ramadan, beaucoup de sujets à partir de 11h. 10h, 11h les médias, mon invité Xavier Demoulin, bonjour.
Bonjour.
Bon anniversaire.
Merci, j'ai 10 ans.
Vous n'avez pas tout à fait 10 ans, vous êtes arrivé un petit peu plus tard.
Un peu plus tard, 9 ans et demi j'ai.
9 ans et demi.
9 ans, allez 9 ans.
Le 1945 d'M6 qui fête ses 10 ans. On va en parler avec vous, une audience au top, avec des présentateurs au top. Nathalie Renoux, Karine Guioc également avec vous. On y revient. Et puis Gilles Gansman qui est
bonjour
là.
Madame.
Bonjour Gilles, qui
bonjour.
Va nous présenter le zapping dans un instant. Allez, je vais vous donner les audiences que vous pouvez retrouver tous les matins avec Rémi Pernelet à 9h20. Je lui pique ses audiences. Le top 3 et le flop. Alors en tête hier, Xavier, vous qui êtes un fin observateur, à votre avis, qu'est-ce qui a gagné?
Ah bah en famille, non?
Non, c'est mal. Non, mais pas
ça
mal.
A bien marché,
pas mal.
Ça a bien marché.
On avait hier Yvan Le Bolloc avec nous. C'est vrai que c'est une série sympa. Non, c'était F1, 5 428 000 téléspectateurs, 24,4% de part de marché pour le match de foot entre la France et l'Andorre pour les qualifications de l'Euro. Vous avez
qui a gagné,
Gilles, évidemment.
Bon,
comme Rémi n'est pas là, je ne peux pas vous dire qui a gagné. Non. TF1, donc largement leader des audiences hier. Deuxième position, France 3, 3 400 000 téléspectateurs, 14,9% de part de marché pour les deux derniers épisodes de la série Soupçon avec Julie Gayet. C'est le même score que la semaine dernière, donc ça veut dire qu'il y avait une certaine fidélité. Et puis en troisième position, M6 avec le Prime dans Famille, quasiment 3 millions de téléspectateurs, 13,1% de part de marché, 2 millions de plus que la semaine dernière pour Maison à Vendre. C'est un très bon score pour M6. Vous l'avez regardé évidemment la série.
Nous, non seulement je l'ai regardé, mais en plus on est avec les gens qui fabriquent régulièrement, en contact avec eux, donc on suit un peu comment tout ça se passe, les thèmes. Hier, c'était la Bretagne.
Ouais.
C'est ça que c'est très, très bien fait.
C'est bien fait, puis ils sont sympas. La famille est vraiment sympa. Et puis un flop quand même, quatrième place pour France 2 avec le prime d'affaires conclu, 2 millions de téléspectateurs, 10% de part de marché, 900 000 de moins que la semaine dernière sur les pouvoirs extraordinaires du corps humain.
À un moment, quand on met d'affaires conclues partout, ouais. On le paye.
Vous aimez ce type de programme ?
Je trouve que mettre en valeur le corps aujourd'hui et l'esprit en même temps est une idée intéressante.
Non, ça c'était. Mais non, hier c'était la brocante.
Ah, la brocante.
Patrimoine.
Pas, ça j'ai pas regardé.
C'était pas le docteur Simès.
Non, parce
que j'ai dit que ça avait mieux marché les pouvoirs extraordinaires du corps humain.
D'accord. Alors non, j'ai pas.
On va revenir tout à l'heure sur vos goûts télévisuels. On a nos auditeurs 0826 300 300. Et vous, qu'avez-vous regardé hier soir? On a Barbara en ligne avec nous. Bonjour Barbara.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous avez regardé quoi à part le 1945 d'M6 évidemment?
Non, pas regardé non plus. Enquête de santé sur France 5.
Ça parlait de quoi?
Alors, c'était sur le cancer de la prostate.
D'accord. Et vous êtes fidèle de cette émission?
Alors, à l'occasion, quand je regarde la télé fidèle, non, mais bon, si le sujet m'intéresse, je le regarde volontiers.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a intéressé hier?
Eh bien, écoutez, on apprend quand même, peut-être que beaucoup d'auditeurs le savent déjà, mais que c'est un cancer que l'on n'opère pas forcément et qui parfois est mieux, se développe beaucoup moins à ne pas l'opérer qu'à l'opérer. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant.
D'accord.
Donc, les gens vivent très bien avec. Bon, évidemment, il faut être suivi, mais c'est plutôt rassurant de se dire que, c'est possible
Donc c'était
de continuer à vivre sans être opéré, sans voilà.
D'accord. C'était une bonne émission pour vous.
Ça a pas mal marché. Ouais. C'est arrivé deuxième des chaînes après les chaînes nationales après C8.
Bon, Ludovic est en ligne avec nous. Bonjour Ludovic.
Oui, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez avoir la réponse à votre question, je crois.
Oui, alors vous avez regardé le match de foot France-Andorre.
Oui, bien que ce soit sur TF1. D'ailleurs, Valérie, je vous avais appelé après Andorre France avant l'été. Et du coup, là, c'était sur M6. Mais bon, comme ils se partageaient les droits, voilà. Bon, hier soir, il n'y avait pas trop de suspense. Victoire pour info, 3-0 des Bleus.
3-0 des Bleus. Bon, c'était un bon match ou pas?
Oui, mais... Enfin, oui, voilà, pas de suspense. Hein,
pas de suspense. Voilà, pas vraiment de suspense. D'accord.
Non,
bon,
non,
bah,
non,
merci.
Emballé,
merci.
Voilà.
Vous nous appellerez pour le prochain match. Hein, vous nous tiendrez au courant. Vous nous ferez votre commentaire. Merci, Ludovic. Gilles, lui, a regardé le replay de Pékin Express sur le site, sur la page Facebook de Sud Radio. Je suis toujours surpris. Conquis par les habitants qui n'ont rien et offrent le meilleur de leur hospitalité. C'est vrai que c'est une bonne émission. Vous regardez quoi, vous c'est quoi vos goûts télévisuels?
Bah moi, c'est plus tourné vers l'actualité, vers vers l'information. Donc c'est vrai que Zone Interdite, Enquête Exclusive, à la.
Et puis, vous avez le droit de regarder autre chose qu'M6 ou pas?
Bien sûr, je regarde tout ce que fait 7 à 8, tout ce que fait Élise Lucet, Envoyé spécial. Je regarde des docs sur Arte. Il y en a eu un récemment sur la mafia. Je sais pas si vous l'avez vu.
Magnifique, super. Incroyable. Regardez-le en replay sur Totorino. Absolument.
Enfin, c'était dingue. Ouais. Voilà. Donc et puis des séries aussi. Mais je trouve que la télévision a encore énormément, propose un choix incroyablement vaste, dense et de qualité. Donc voilà, donc je suis client, toute chaîne confondue.
Il y a peut-être des émissions un petit peu inavouables, des choses que on vous imagine pas regarder, parce que là, ça rentre avec le présentateur du JT de 66 minutes.
Non, parce que je regarde évidemment aussi La Grande Librairie, j'ai aussi des goûts qui vont en dehors
de ça.
Mais
avouable.
Non, mais le inavouable. Côté. Si c'est me demander si je regarde Les Marseillais
oui,
ou.
Oui, par exemple.
La réponse est non.
Non, mais quelque chose qu'on n'imagine pas que vous regardiez, je sais pas, The Voice.
The Voice, ça m'est arrivé de le voir, mais ça, c'est plus chez des copains.
Les émissions de cuisine, je sais pas, non.
La cuisine et moi, ça fait 28, comme dirait ma fille. Donc, non, mais je vous assure, franchement, j'essaye d'optimiser mon temps de vie.
Ouais.
Donc, j'ai pas de plaisir coupable à la télévision. Je peux en avoir en musique, je peux en avoir un peu dans d'autres domaines, mais pas à la télévision.
Alors, votre première télé, c'était quand?
Ma toute première apparition à la télévision, c'était le 4 septembre 99, ou le 3 septembre, pardon, nulle part ailleurs. Première partie, c'était donc animé par Alexandre Devoise et Philippe Vecchi à l'époque. Ouais. Et j'étais tout jeune journaliste et je pétais de trouille. Il y avait genre Public Ennemi dans le public, c'était en direct. On m'avait pas prévenu que quand il y avait un rouge sur la caméra, c'est qu'on était filmé. On m'avait rien dit, on m'avait juste descend, parle. Et c'était horrible.
Ouais.
Horrible, tellement j'avais peur, tellement j'étais stressé. Quand je vois aujourd'hui les jeunes qui arrivent sur des plateaux comme s'ils étaient nés sur un plateau de télévision, je suis fasciné.
Ouais. Et aujourd'hui, vous avez encore le trac ou pas?
Non, parce que j'ai... j'ai pas le trac. J'ai l'appréhension que j'ai, c'est que tout se déroule bien pour les gens qui nous regardent. Le trac, je l'ai plus, mais j'ai mis du temps à m'en débarrasser. Mmh. Il a fallu que je passe notamment par Paris Dernière et que je sois derrière une caméra pour pouvoir revenir devant une caméra sans avoir le trac. Mmh. Mais je l'ai eu très très longtemps, même quand j'étais à Plus Clair avec Daphné Roulier ou quand j'étais avec Maïtena. Nous ne sommes pas des anges. J'ai toujours traqué beaucoup, jusqu'au moment où ça s'est arrêté comme ça.
Mmh. Votre dernière colère devant la télé?
Ah, oh là là, c'est une très bonne question, ça. Je pense que ma dernière colère devant la télé, c'est tout le temps quand je regarde le... Mais même quand j'écris mon JT, et quand je fais le tri des informations, et quand je vois tout ce qui arrive sur les questions climatiques, l'injustice sociale, la paupérisation, et la violence.
Donc c'est
ma colère, elle est... Et nous, on doit contenir cette colère-là. Et donc, c'est vrai que c'est un métier qui est tout à fait passionnant, mais on travaille avec des éléments quand même assez sombres, c'est assez anxiogène, en fait, la matière.
Donc,
ça met en colère.
Gilles, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors, Valérie, voici donc le zapping du jour. Alors, je vais vous donner mon petit sommaire, comme d'habitude. Vous allez voir que dans C'est à vous, Jamel Debbouze, qui avait annoncé qu'il arrêtait le One Man Show, et donc était dans l'émission de France 5 pour annoncer son nouveau One Man Show. Il en a profité pour donner son avis sur la jeunesse de Macron, puisque notre président est très jeune. Ça a chauffé dans l'émission de Pascal Pro sur CNews. Alors, vous allez voir qu'il a recadré sa chroniqueuse Sophie Obadia, qui sur le plateau n'arrêtait pas de parler. Du coup, quand Pascal Pro l'a recadré, elle l'a mal pris. Et ben lui, il a révélé les SMS qu'elle lui envoyait en plein direct. Vous allez voir, ambiance. Autre colère, celle de Jean-Marie Bigard, qui n'admet toujours pas que Muriel Robin occulte le fait qu'ils étaient amis. Ah bah oui, c'est l'actu, c'était partout,
madame.
Parce que
Bigard s'est exprimé sur Sud Radio. Hier, on a vu que Muriel Robin lui avait répondu.
Eh ben, il a répondu, il était sur C8, il y a eu plein de choses. Et puis encore une colère, celle des associations LGBT, quand ils ont entendu Noël Le Graët annoncer que désormais les matchs de football, quand il y aurait des cris homophobes, ne seraient plus arrêtés. Pour commencer, on va démarrer. C'est mon chouchou. Hein. Mmh. Dans deux jours, Patrick Balkany risque d'être arrêté et dormir en prison. Mmh. Et vous allez voir qu'une journaliste de Quotidien sur TMC a été à sa rencontre à Levallois-Perret. Bon, pour Patrick Balkany, lui, il est philosophe, mais alors très philosophe.
Vous n'êtes pas trop stressé ?
Je ne suis pas d'un naturel stressé, moi.
Vous risquez la prison ?
Mon père était à Auschwitz.
Si vous êtes condamné ?
Je fais appel.
Et si vous êtes condamné après l'appel ?
Après l'appel, il y a la cassation.
Et après la cassation ?
Il y a la Cour européenne.
Et après la Cour européenne ?
Je prendrai ma retraite.
Il est plus petit que moi. Il est né la même année que Faudel. Qu'est-ce qu'on a foutu, merde ?
39 ans !
39 ans ? C'est pas un âge présidentiel. Non.
C'est quoi ?
C'est une pointure, maximum.
Est-ce que vous voulez que je vous rappelle votre tweet que vous m'avez envoyé, pas un tweet d'ailleurs, votre message que vous m'avez envoyé l'autre jour, alors que vous ne participiez pas, vous ne participiez pas à l'émission. Bon, rythme un peu trash, non, rythme syncopé, je te parle au cœur, reviens au ton sympathe du début. Et c'est vous qui foutez le bordel sur mon émission. Donc arrêtez. Donc quand vous êtes là, vous êtes pire que les autres.
Depuis 30 ans, on n'est pas amis, tu vois. Bon, ça c'est les misères de l'âge, c'est pas très méchant, ma pauvre Muriel. Je rappelle que, par exemple, le 7 septembre 2013, on m'a demandé avec insistance que je fasse partie des humoristes qui te rendaient hommage, hein, sur TF1. Ça, tu t'en souviens bien. Et tous les gens qui étaient à cette émission étaient quand même un peu tes amis.
Écoutez, je n'arrêterai pas les matchs. Et il est tout à fait clair, parce que le football reçoit tout le monde. Toutes les classes sociales. Je suis contre totalement, mais je ne veux pas être pris en otage sur l'homophobie. Mais l'arrêt des matchs ne m'intéresse pas. J'arrêterai un match pour des cris racistes, ça c'est clair.
Voilà, ce Noël Le Graët qui a évidemment hier suscité beaucoup de réactions. Mm-hmm. Ça vous inspire quoi ?
Il y a eu dans le gouvernement d'autres réactions qui ont temporisé un peu ses propos et qui ont montré leur désaccord. Est-ce que lui aura le dernier mot là-dessus ? Après, on parlait de colère devant ses écrans ou la télévision. Ce genre de réaction provoque quoi ? Griezmann a dit aujourd'hui qu'il était pour l'arrêt des matchs en cas de
mais Hugo Lloris, non.
Avéré, voilà. Donc, je pense que c'est pas terminé cette affaire-là.
Non, oui, c'est puis, compliqué.
Ce qu'Amil fait au bout, c'est qu'il compare le racisme en disant s'il y a des cris racistes, j'arrête les matchs. S'il y a des cris homophobes. Alors que l'homophobie et le racisme sont tous les deux condamnés.
On va en reparler tout à l'heure. Vous regardez les émissions de débat, comme celle de Pascal Pro.
C'est intéressant de voir cette espèce de tendance sociétale en fait autour de la violence et autour du bruit. Je pense que il y a un créneau là comme ça qui commence à qui est arrivé là, sur place depuis quelques années maintenant à la télévision, et il faut entretenir cette violence, ce bruit là, et moi franchement ça m'emmerde. J'ai pas envie de ça. Je préfère le sens, la pédagogie, voilà, informer, c'est pas faire du bruit, entretenir le foyer de la violence. La violence, elle est verbale, hein, mais à chaque fois, il faut être repris, il faut que ça fasse le buzz.
Je pense
que ça va être la fin d'une époque très vite.
Je vous ai surpris sur le fait qu'il révèle un SMS ?
Non, mais c'est des trucs de cuisine interne, c'est pour faire du buzz encore, et pour être sur Twitter, là, voilà, dans les top... tweets commentés, enfin je sais pas, c'est une culture particulière qui est pas la mienne en tout cas.
Patrick Balkany, philosophe,
c'est dingue parce qu'en fait on se demande comment on en vient là, c'est quoi cette nature. On l'a fait il y a quelques mois dans 66 minutes, pareil, le type est enfin c'est un vrai sujet d'étude du comportement humain.
Allez, on va passer à votre actualité, donc les 10 ans du 1945, qui est un journal qui était extrêmement novateur, on peut le dire. Hein. Vous avez été premier, j'ai vu dans le dossier de presse, effectivement premier à présenter debout, premier à utiliser tout ce qui était 3D, la téléportation. C'était un pari risqué à l'époque, enfin, c'était un pari osé.
C'était un pari osé qui faisait ricaner beaucoup de monde, vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai j'étais pas là au tout début, ouais. Je suis arrivé un an après, mais c'est vrai que les gens disaient pourquoi debout, c'est un peu artificiel. Alors on temporise, il y a déjà eu des gens qui s'étaient déjà mis debout pour présenter des informations, ouais. Mais là non seulement on était debout, mais en plus il y a des déplacements. Ouais. Et puis après là, ça a été aussi un pari donc technologique, une nouvelle manière de faire, un nouveau rythme. Mais c'était surtout, avant tout, un pari éditorial. Ouais. Y avait-il de la place pour un autre JT du soir
juste
à
avant le 20h, quoi, qui démarrait un quart d'heure avant.
Exactement. Ouais. Et puis, ça a pris, ça a marché, grâce à une rédaction incroyable, un travail quand même évidemment permanent, une concentration de tous les instants. Et aujourd'hui, il a fait un peu école, ce journal. De temps en temps, on le note, on voit des gens qui se mettent debout ailleurs, qui font des expliqués, nous, etc. Donc,
ils ont mis du temps à y venir.
Oui, mais c'est bien d'inspirer aussi. Voilà. Donc là, en toute humilité, je trouve que ce journal est vraiment devenu... un vrai rendez-vous, un grand rendez-vous d'information le soir, et ça, on est tous très fiers à la rédac.
Vous y êtes arrivé comment ? Parce que c'était pas votre métier a priori de présenter un JT.
Vous étiez
un peu touche à tout, mais pas du tout.
Complètement. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Moi, j'arrivais du magazine, j'ai fait mes armes d'abord en presse écrite, et puis à Canal+, et puis en radio, et je faisais donc du magazine. J'animais Paris Dernière sur Paris Première, donc j'ai changé de vie et je suis arrivé parce que ils cherchaient, donc quand Claire Barsac a dit qu'elle ne voulait plus continuer, ils ont cherché à la remplacer. Il y a eu plein de castings. Et puis, on m'a demandé si j'avais envie d'essayer. Et je suis un garçon curieux. J'ai dit pourquoi pas. Et puis, sous l'impulsion de Nicolas de Taverneau, et puis de Thomas Valentin et de Vincent Régnier à l'époque, qui s'occupaient de tout ça, j'ai fait des premiers essais. Et puis ensuite, j'ai rencontré à la rédaction qui m'a formidablement bien accueilli. Et j'ai effectivement appris un nouveau métier, même si j'avais les bases par rapport à tout ce que j'avais fait.
Claire Barsac, vous savez ce qu'elle devient ?
Je ne l'ai pas eue, elle, directement, mais on m'a dit récemment qu'elle travaillait et qu'elle était très heureuse dans l'immobilier, je crois.
Oui, absolument.
Et au bout de 10 ans, vous avez parlé de Paris Première, vous avez été sur le terrain, vous avez parlé tout à l'heure de Cache Investigation. Vous n'en avez pas marre d'être devant un fond vert tous les soirs
et de ne pas sortir
du studio et de ne pas bouger?
C'est vrai que mon terrain, c'est de passer du moins 1 au moins 3 et de prendre l'ascenseur. Non, c'est un autre terrain. J'ai par ailleurs la chance de m'occuper aussi de 66 minutes. Il m'est arrivé de partir, et ça j'ai adoré le faire, à quelques reprises, que ce soit aux États-Unis, en Colombie avec Handicap, en Afrique, etc. C'était vraiment des reportages, ça me manque, c'est vrai que ça me manque, mais de voir les copains partir, d'être sur... C'est une autre forme de reportage statique, en fait, comment vous dire, vous suivez ça en temps réel, vous infusez, vous écrivez un journal, vous parlez aux gens, c'est un autre mouvement. C'est vrai que ça me manque parfois de ne pas être en extérieur, de ne pas partir, mais c'est un choix, c'est comme ça quand on présente...
Mais c'est pas lassant le quotidien? Non. Au bout de 9 ans, l'actualité est variée, certes, mais...
Non, mais c'est très étonnant, cette temporalité-là, parce que vous avez un exercice quotidien et répétitif, vous l'avez dit, donc vous pourrez penser que ça peut être lassant. Mais dedans, le cadre est tellement fou, et dedans, il se passe tellement de choses que vous jonglez avec en permanence, et vous ne voyez pas le temps passer. Présenter un JT, ça change votre rapport au temps, à tel point qu'à l'extérieur, quand vous êtes avec des gens... qui n'ont pas l'habitude pas avec des collègues, vous avez un rapport au temps modifié. Exemple, je t'invite à dîner vendredi, nous sommes mercredi, pour moi, vendredi, c'est dans 8 semaines.
Ouais.
Et pas pour les autres, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est dans un temps réel qui nous absorbe, donc on ne se rend pas compte du temps qui passe.
Du temps qui passe, donc
c'est clair ou pas?
Oui, c'est très clair, Gilles.
Ce qui fait la force des JT sur les autres chaînes, c'est leurs invités. Des fois, vous n'avez pas envie d'avoir un invité face à vous, un politique, que vous avez de temps en temps quand c'est des périodes d'élection, mais vous n'avez pas envie d'avoir un invité ou un gilet jaune ou quelqu'un qui vient de temps en temps sur le plateau.
C'est une très bonne question. Si, l'altérité manque. Mais est-ce que ce journal, en fait...
C'est peut-être ce qui fait son particularisme, justement.
Le temps passé 9 ans, etc., vous créez un rapport de proximité avec les gens, donc il y a un contact qui se crée aussi. Ça prend du temps. On ne rentre pas chez les gens comme ça en toquant à leur porte. Il faut se faire accepter, adopter, et ça prend du temps. Ensuite, pour les invités, c'est une très bonne question. Je pense que ce journal-là ne se prête pas nécessairement à un invité au quotidien de par son rythme et sa durée. C'est comme ça.
Qu'est-ce qui fait sa particularité? C'est ça,
son rythme.
Oui, le rythme.
Le rythme, la proximité qu'on peut. Le ton. Et puis les éléments de pédagogie très simples qu'on essaie de rassembler chaque soir. C'est pas un JT qui est fait, je pense, aujourd'hui pour avoir un invité au quotidien.
Vous êtes reparti pour 10 ans?
Vous savez, ça, c'est un truc très marrant.
On
parce
vous pose
que
souvent la question, j'imagine.
J'en sais rien, mais c'est pas un truc. C'est, enfin, y a pas, c'est pas moi qui décide de ça.
Ouais.
Faut rester très humble. Hein. Y en a qui ont dit un jour, je sais la date de mon départ,
c'était Patrick Poivre d'Arvor.
Je vous l'annoncerai. Bon, ben voilà, non, ça se passe pas comme ça en 2019.
Mais là, vous en avez envie, en tout cas.
Moi, je vis au jour le jour, et ça m'a appris l'instant présent, et je suis très heureux dans ce que je fais avec cette rédaction. Et puis, je vous dis, ça fait 10 ans maintenant presque que je travaille avec Stéphane Gendarme, Mélanie Mingot, enfin les patrons de la rédaction. Voilà, on se connaît bien aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est des rapports humains. J'y suis aussi humainement attaché.
Il y a Nathalie Renoux qui présente, qu'on a reçu déjà de nombreuses fois ici, les éditions du week-end. Et puis également Karine Guyoc qui, elle, est au 12-45. Donc c'est quand même une équipe
oui, c'est ça, qui est là. C'est des filles extraordinaires. Nathalie, c'est une bête de direct. Elle fait aussi des spéciales. Karine Guyoc, c'est le soleil de la rédaction. Enfin, on est tous. C'est vrai que c'est. C'est très confraternel tout ça.
Ça passe vite. J'ai une dernière question.
Non, je voulais simplement moi avoir une réaction. Je sais que vous êtes proche de tout ce que vous avez vu sur Thierry Ardisson et tout ça. Quel a été un peu votre regard?
C'est intéressant. Alors moi, Marc-Olivier Fogiel m'a vraiment tout appris en télévision, je pense. Pour ce qui est de Thierry Ardisson, ça a été mon producteur sur Paris Dernière. C'est quelqu'un qui a tellement apporté à la télévision, qui a créé tellement de choses, c'était une boîte à idées, voilà, c'est quelqu'un qui je pense, a marqué l'histoire de la télévision, et je pense qu'il n'a disparu que momentanément.
Il reviendra. Allez, merci Xavier Demoulin, on vous retrouve donc du lundi au jeudi, 19h45 sur M6. Vous avez vos audiences hier, vous savez combien vous avez fait?
Non, dites-moi.
2 849 000, 14% de part de marché. Pas mal. Plutôt très bien.
14,9, non, même,
14,
je crois.
14, ouais, j'ai mis 14. Donc, 14,5. Donc, vous le saviez. Merci à vous, Xavier Demoulin. Merci. On se retrouve dans un instant pour parler complot, complotisme et 11 septembre. Pourquoi autant de théories du complot autour de cet attentat? À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Nous sommes le 11 septembre, évidemment une date qui résonne chez chacun d'entre nous. 11 septembre 2001, les attentats de New York, certainement l'un des événements qui a suscité le plus grand nombre de théories et d'idées complotistes. On va parler du complotisme aujourd'hui avec mes deux invités. Christophe Bourseiller, bonjour.
Bonjour.
Vous
Valérie.
Aviez publié C'est un complot aux éditions La Thèse, Voyage dans la tête des conspirationnistes. Vous avez fait une formidable série documentaire sur la chaîne Histoire, très documentée, très argumentée. Moi, j'ai regardé Les Illuminati et le 11 septembre et j'avoue que c'est assez impressionnant dans la démonstration que vous faites. Et puis, Rudy Reichstag, vous êtes fondateur de conspiracywatch.info, consacré à l'analyse et à critique du conspirationnisme et du complotisme. On va parler du 11 septembre à l'occasion donc de la diffusion de vos documentaires et puis évidemment parce que c'est la date anniversaire et j'ai choisi un extrait de votre documentaire sur les théories du complot.
Et les rumeurs se multiplient. On a observé des opérations boursières suspectes le 10 septembre qui concernaient les compagnies aériennes détournées le lendemain. Le 11 au matin, les employés juifs ne sont pas venus travailler dans les tours. 6 des pirates de l'air incriminés sont toujours vivants. Mais où sont-ils passés? Il n'y avait pas de nom arabe sur la liste des passagers des vols détournés. Comment les terroristes ont-ils fait pour embarquer? D'ailleurs, étaient-ils là? L'acier trouvé dans les ruines des tours jumelles a été rapidement déblayé, puis embarqué sur des navires à destination de l'étranger, pour empêcher toute analyse. Le Pentagone n'a pas utilisé son système de défense antimissile. Quand il a été attaqué, il ne s'est pas défendu.
Il y en a 2 minutes comme ça. J'ai chronométré toutes ces théories, toutes ces hypothèses pour dire que cet attentat, ces affirmations totalement vides.
Dénuées de sens. Ben oui, c'était le risque que j'ai pris. C'est-à-dire que j'ai pensé que pour répondre aux théories du complot, dont je perçois la dangerosité, on ne pouvait pas se contenter d'imprécations. Dire les conspirationnistes sont des imbéciles, sont des fascistes, sont des idiots, ça ne change rien. Et donc j'ai pensé qu'il était nécessaire et difficile de répondre sur le fond en mettant les mains dans le cambouis. C'est la raison pour laquelle dans le livre que j'ai fait et dans le et la série de documentaires, j'essaie, avec mes faibles moyens, de répondre sur le fond. Donc, je dis, voilà ce qu'ils disent. Ouais. Puisque finalement, eux disent, vous ne nous donnez pas la parole, vous nous démonisez sans nous donner la parole. Je dis, alors voilà ce que vous dites. Vous dites que les employés juifs ne sont pas venus travailler. Pure calomnie, évidemment, dénuée du moindre fondement. Enfin, etc., etc., etc. Et je réponds sur le fond.
Oui. Alors, Rudi Rechtag, votre livre s'appelle L'opium des imbéciles, qui est paru chez Grasset. C'est un livre coup de poing. La critique du complotisme est un sport de combat. Vous revenez un petit peu sur les origines du complotisme. Sur le 11 septembre, c'est vrai qu'on a vu fleurir un nombre de thèses assez incroyables. On vient de l'entendre. Et en fait, ce qui est difficile dans le complotisme, c'est que moi, je suis persuadée que j'ai raison face à vous. Donc, comment on argumente face à des gens qui ne vous croient pas, puisque le principe du complot, c'est « j'ai raison contre vous ».
D'abord, il ne faut pas oublier que vous avez des gens qui sont complètement des croyants, même fanatiques parfois, dans une forme de dogmatisme. Il sera très difficile de les faire changer d'avis en une seule fois. En revanche, vous avez à côté d'eux énormément de gens, la grande majorité des gens, qui sont relativement indifférents la plupart du temps à ces sujets-là, et qui, par imprégnation, peuvent être amenés à adhérer à une théorie du complot ou d'autres. Et c'est à eux qu'il faut parler, en fait. C'est à eux qu'il faut parler, en leur disant, attention, c'est très bien de douter, c'est très bien de faire preuve d'esprit critique, etc., méthodique, à condition que ce soit fait avec méthode, mais vous avez aussi de très bonnes raisons, en fait, de douter des théories du complot que certains désinformateurs professionnels vous proposent. Certains charlatans politiques ou...
Aujourd'hui, c'est facile de croire, et visiblement, il y a de plus en plus, si j'en crois votre livre, c'est plus facile avec les réseaux sociaux de se laisser convaincre. C'est cette phrase d'Isaac Asimov, grand auteur de science-fiction, qui dit « Mon ignorance vaut autant que ta connaissance ».
Oui, ça, c'est le relativisme, si vous voulez, qui fait que tout est mis sur le même niveau, qu'on dénie aux experts leur rôle, si vous voulez, de transmission des savoirs et d'intermédiaire entre la connaissance et le grand public. Et non, si vous voulez, on ne peut pas s'improviser architecte, ingénieur en génie civil, géopoliticien, vaccinologue, etc., juste derrière son écran ordinateur.
Ouais. Et surtout, on vous martèle Christophe des conseiller. Affirmations. C'est ça, effectivement, comme l'a dit Rudi, il y a deux types de complotistes. Il y a les vrais théoriciens du complotisme, c'est les petits groupes ultra sectaires en général, voire des individus seuls. Et puis, il y a cette masse de gens qui sont influencés. Pourquoi ? Parce qu'ils vont aller sur YouTube, ils vont aller sur Internet, et là, ils vont avoir un type qui va, avec une espèce d'aplomb extraordinaire, qui va expliquer, par exemple, concernant le 11 septembre, il y a une théorie du complot qui semble irréfutable, c'est de dire, bon alors, le point de fusion de l'acier est de tant de degrés, déjà on ne sait pas, à part les ingénieurs, quel est le point de fusion de l'acier, or, des avions qui percutent une tour produisent une chaleur inférieure. Et comment on le sait que des avions qui percutent une tour produisent une chaleur inférieure, ou déjà ça pose problème. Et donc, évidemment, quand vous entendez ça, puisque les avions produisent une chaleur inférieure et que le point de fusion de l'acier qui permet au tour de s'écrouler est de temps, donc il fallait qu'il y ait un sabotage supplémentaire. Vous voyez, donc si vous n'êtes pas informé, si vous ne savez pas que, bien sûr...
Mais pourquoi je vous croirais-vous plus que celui qui affirme ça ? C'est-à-dire, il y a toujours ces pseudos, c'est ce que vous dites, hein, Rudi Rechtag, dans votre livre, ces pseudo-vérités scientifiques, c'est scientifique qu'on avance en disant, mais un scientifique l'a dit. Moi, je sais que j'ai un combat pour la vaccination. Régulièrement, les auditeurs me disent, mais écoutez le docteur à la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on répond à des gens qui sont persuadés,
Il faut produire des témoignages d'ingénieurs, si possible, les plus neutres possibles, qui vous répondent que pour qu'une tour s'écroule, on ne demande pas à l'acier d'entrer en fusion, lui demande simplement de se ramollir, et malheureusement, avec un avion, je sais que c'est gros un avion quand même, ça peut permettre ce ramollissement.
Non, et puis, il faut faire sans doute un peu de pédagogie de la manière dont fonctionne la science, la manière dont fonctionne la presse, c'est-à-dire l'établissement des faits. La science, c'est pas des scientifiques, une cabale de scientifiques qui se réunissent et qui produisent des articles scientifiques qui répondent à leurs caprices. C'est des gens qui publient dans des revues scientifiques, c'est-à-dire qui fonctionnent par la validation par les pairs, et c'est comme ça qu'on progresse. Alors parfois on se trompe, parfois on prend un autre chemin, etc., mais globalement c'est comme ça qu'on progresse. En face de ça, on a des théoriciens du complot qui sortent littéralement de nulle part et qui vous disent, effectivement les tours ont pas pu s'effondrer comme ça, sauf que eux ne produisent pas, si vous voulez, d'articles scientifiquement validés. Voilà le problème. Donc, il faut aussi faire confiance à l'expertise en démocratie.
Oui, vous avez dit le mot confiance. C'est aussi, on est aujourd'hui dans un monde de défiance de plus en plus. Donc, mais ce n'est pas nouveau. C'est ce qui est intéressant dans votre série, dans votre livre et dans les documentaires, les Illuminati. Sur le complotisme, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Absolument.
Vieux complot, c'est...
Si vous voulez, il y a toujours eu des complots. Par exemple, Brutus tue César, c'est un complot.
Mais c'est un vrai complot, parce qu'il y a les vrais complots et il y a le complotisme.
Non, mais voilà, il y a deux choses différentes. Oui. Vous avez toujours eu de vrais complots, et puis moi je dirais que vous avez toujours eu tout au cours de l'humanité des rumeurs. Il paraît que machin est malade, il paraît que bidule couche avec bidule.
Et des accusations de complots infondées.
Et des accusations.
Oui, qui servent à persécuter.
Le complot,
mais
ça existe.
La première vraie théorie du complot concerne la Révolution française, et ça remonte à la fin du 19e siècle, quand Augustin Barruel, notamment, va expliquer que la Révolution française n'est pas une révolution, mais c'est un coup d'État ourdi par les francs-maçons, manipulé par les Illuminati. Ouais. Donc là, tout ça pour faire advenir le règne de Satan. Donc si vous voulez, c'est ça la première théorie du complot. Qu'est-ce qui sépare une théorie du complot
d'une complot
rumeur
et du complot lui-même, parce que le complot existe.
Tout à fait. Ouais. Une théorie du complot, c'est une construction dans laquelle vous tordez la réalité pour éviter, faire en sorte au fond que le hasard n'existe plus. Il pleut, c'est un coup des Américains qui envoient un satellite espion pour me noyer dans une inondation, etc., etc. Alors maintenant, à côté de ça, bien sûr, il y a toujours eu de vrais complots, et il y en aura toujours.
Oui,
mais si je peux me permettre, personne ne dit qu'il n'y a pas de complot.
Oui.
Ceux qui combattent, comme moi, comme Christophe, les théories du complot, certes des croyances, disent, attention, parfois ces croyances complotistes, elles procèdent elles-mêmes d'opérations, de désinformation, de manipulations qui s'apparentent d'ailleurs à des complots. Oui. L'affaire Dreyfus, c'est ça, les protocoles de sagesse, c'est ça. Bon. Donc, il s'agit absolument pas de dire que ça n'existe pas, les complots. Il s'agit de dire qu'en revanche, il y a des croyances qui, elles, agissent aussi les hommes à travers l'histoire, et parfois avec des conséquences funestes. Mmh. Alors dire que c'est parce qu'il y a des complots qu'il y a des théories du complot, c'est un peu comme dire qu'il y a des feux de forêt parce qu'il y a des forêts. Mmh. Vous voyez, on n'avance pas d'un pouce, c'est une palissade. En revanche, moi, ce que je crois, c'est que c'est pas parce qu'il y a des vraies manipulations seulement qu'il y a des théories du complot, ce genre de construction délirante. Ouais. C'est parce qu'il y a des gens qui mettent ça en circulation pour des buts politiques, parce que nous, on aime ça, naturellement. Il y a tout un tas de biais cognitifs qui expliquent notre appétence pour ce genre de choses. Et puis, parce que c'est très consolateur, une théorie du complot, ça donne sauce au monde, ça vous rassure, ça met un pilote dans l'avion, là où parfois il n'y en a pas. Ouais. Ça fait écran entre vous et le réel. Face à une nouvelle, par exemple une info qui est jugée difficile à assumer, c'est très pratique de se réfugier dans la théorie du complot.
Prenez un exemple. Regardez l'affaire Jeffrey Epstein. Ouais. Donc il s'est suicidé dans sa cellule. Ouais. C'est tellement tentant de dire il a été assassiné. Ouais. C'est le début d'un formidable film américain.
Le corps n'est pas son corps.
Il y a eu substitution ou alors pire.
Il y a quelqu'un qui a expliqué qu'on lui avait fait une greffe de tête.
Oui, j'ai lu ça.
Oui, ça paraît logique. Ça paraît tout à fait. Il y a bien quelqu'un sur le 11 septembre qui a expliqué que c'était des avions holographiques qui étaient rentrés dans les tours. Donc imaginez le travail considérable avec les projecteurs pour balancer des avions holographiques dans des tours.
Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fait divers, on a une théorie différente de la thèse officielle? Il y a quand même eu un basculement à un moment qui est relativement récent.
En fait, qui est lié à l'environnement technologique dans lequel on évolue, c'est-à-dire Internet, le fait qu'on ait les réseaux sociaux directement tous dans nos poches et les smartphones, qu'on peut tous d'ailleurs nous-mêmes faire du son, de l'image, le poster instantanément. Donc ça change tout, ça change la donne. Et donc quelque chose qui est très ancien, qui est vieux comme le monde, tout d'un coup a des possibilités renouvelées et inédites de se diffuser à une très large échelle. Et donc la question, c'est pas est-ce que le complotisme ça augmente, c'est comment pourrait-il ne pas influencer plus qu'il n'a jamais influencé, en fait.
Et vous dénoncez c'est ça qui est complaisance des médias. Vous dites
complaisance d'une partie de la classe intellectuelle, si vous voulez, des élites intellectuelles, une partie de nos élites politiques aussi, et évidemment aussi des médias classiques qui font très souvent du très bon boulot, il n'y a pas de problème, et qui, des fois, cèdent à ce penchant-là, pour des raisons commerciales peut-être, idéologiques aussi, et qui sont parfois indiscernables de certains médias complotistes, où on se dit, mais en fait, ils sont juste en concurrence. Mmh. Ça arrive.
Mais il y a une crise des médias qui explique aussi l'appétence pour le complotisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, alors après, il faut que les journalistes fassent leur examen de conscience, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'on leur ment, que le journal de TF1, de France 2, etc., leur ment, qu'on leur raconte des bobards, que ce qui a été écrit dans les journaux n'est pas vrai. Et ils se persuadent, ou on les persuade évidemment, parce qu'on les manipule, que sur YouTube, que sur Internet, que sur Twitter, ils vont trouver une vérité vraie qu'ils ne trouvent pas en lisant Libé, Le Figaro ou Le Monde, voyez. Et donc, c'est tout là, dans cette crise du journalisme. Je pense que les journalistes doivent s'interroger, se dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait notre travail le plus honnêtement possible? Il n'y a pas de journaliste objectif, il n'y a que des journalistes honnêtes, disait Hubert Beuve-Méry. Oui. Mais pourquoi est-ce que ce travail aujourd'hui est perçu comme de la propagande d'État par un grand nombre de gens, y compris malheureusement beaucoup de jeunes? C'est ça le problème.
Et la réponse, c'est quoi?
La réponse, c'est qu'il y a peut-être eu des dérapages dans le traitement aussi, de l'information. Il y a aussi une monotonie qui peut, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a eu, aujourd'hui les choses évoluent, mais il fut une époque où tous les titres des journaux dépendaient d'une dépêche de l'agence France Presse. Ouais. C'était un peu l'agence France Presse qui faisait les titres, si vous voulez, ce qui fait qu'on avait l'impression que tous les journaux, quand on était au fin fond d'une région, loin de tout, on pouvait avoir l'impression que tous ces journaux s'étaient ligués pour dire le même jour qu'il y avait des embouteillages, le même jour que la rougeole faisait des ravages, etc.
Allez, on se repose pas du tout. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300, si vous voulez réagir, on vous attend.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
On est ensemble jusqu'à midi, 10h-11h, les médias. On parle de cette formidable série que je vous encourage à regarder sur la chaîne Histoire. C'est en replay, il y a 6 numéros, c'est ça?
Il y a 7 numéros en tout.
7 numéros en tout, les Illuminati le 11 septembre, c'est en replay, si vous voulez les voir, c'est diffusé le lundi soir. Vous avez publié C'est un complot, et donc c'est une série qui est adaptée de votre livre qui est paru chez La Thèse, et Rudi Rechtad, donc l'opium des imbéciles. La critique du complotisme est un sport de combat parce que c'est dur, violent. C'est ce qu'on lit dans votre livre. C'est paru, ça vient tout juste de sortir chez Grasset, et également on peut aller sur votre site conspiracywatch.info où il y a énormément de choses intéressantes et passionnantes. Gilles est resté pour le débat. Vous aviez une question sur le 11 septembre.
Oui, en fait, sur le 11 septembre, en France, on a eu l'émission de Thierry Ardisson avec l'invité Thierry Messian qui a sorti un livre comme si c'était incroyable, formidable, et qu'il allait tout expliquer du 11 septembre. Tout est parti de là aussi sur
oui, sur alors dans le cas de Thierry Messian, évidemment, on est face à toujours à ceux qui sont les artisans du complotisme. Oui. Donc Thierry Messian est quelqu'un qui a un parcours pour le moins surprenant, puisque c'est quelqu'un historiquement qui était au départ un catholique de gauche, catholique progressiste, qui ensuite a créé un mouvement, qui s'appelait un petit groupe, qui s'appelait le Réseau Voltaire, et qui faisait la surveillance, on pourrait dire, du Front National et de l'extrême droite, qui était tout à fait intéressant dans son travail. Et puis il y a eu le 11 septembre, un espèce d'événement, une fracture mentale, on pourrait dire, chez Thierry Messian. À ce moment-là, il a développé une thèse très précise, selon laquelle aucun avion n'avait percuté le Pentagone, ouais, avec des arguments scientifiques absolument extraordinaires, que j'ai pu réfuter parce qu'ils sont tous réfutables, évidemment, puisqu'un avion a effectivement percuté le Pentagone. Mais à partir de là, il s'est auto-démonisé, il a quitté la France et il est aujourd'hui au Liban, où il est protégé en fait par le Hezbollah. Donc voilà, et il poursuit son travail de propagande, enfin je sais pas comment dire, ou d'information, ou de désinformation, si vous voulez, complotiste, depuis le Liban, et donc il y a toujours son site qui il poursuit ses activités. Donc c'est évidemment, ce qui est intéressant dans son cas, c'est le fait que ce qu'il a fait connaître, c'est une émission de télévision qui était une émission de Thierry Ardisson. Alors après, il y a deux questions. Est-ce que c'était faire une propagande, une publicité scandaleuse à ce personnage en l'invitant? Moi, je pense que oui, évidemment, parce qu'il fallait que quelqu'un lui porte la contradiction. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas censurer les tenants des théories du complot, car sinon, ils diront que leurs idées sont justes, et c'est pour ça qu'on les censure. Oui. Donc, il faut au contraire les écouter et puis expliquer en quoi ils ont tort.
Oui, mais alors, il
faut être pédagogique.
Ne pas inviter quelqu'un, c'est pas forcément le censurer. Moi, je suis pas invité chez Ruquier, je crie pas à la censure, vous voyez ce que je veux dire.
C'est vrai.
Donc, Messian publié à ce moment-là en 2002.
C'est peut-être un complot.
C'est louche.
Non, mais il publiait aux éditions Carnot, qui quand même publiait toutes sortes de pamphlets conspirationnistes déjà sur toutes sortes de sujets délirants. On pouvait quand même sentir quelque chose de pas très sérieux, d'autant que Messian, il faut quand même le dire, n'a pas mis un pied aux États-Unis pour soi-disant enquêter sur le 11 septembre. Il a fait ça derrière son écran ordinateur.
Et comment on explique que le 11 septembre, comment vous l'expliquez, qu'il y a eu autant de théories autour de ce... C'était à la mesure de.
Mais oui, c'est un jalon historique considérable. Ouais. c'est l'attentat.
C'est ça, c'est trop gros.
Oui, c'est trop gros. D'abord, on est tous sidérés quand on voit ça. C'est l'attentat quand même le plus meurtrier de toute l'histoire du terrorisme. C'est l'acte de guerre le plus violent sur le territoire américain. Ça n'était jamais arrivé. Donc, il faut prendre la mesure du traumatisme que ça a été. Et c'est des théories du complot qui sont à la mesure, effectivement.
C'est comme Pearl Harbor, si vous voulez. Ce sont des actes très importants. Et au fond, le début du raisonnement paranoïaque, c'est de dire, cherche à qui le crime profite. Mmh. Alors, c'est sûr que le 11 septembre, politiquement, pouvait profiter au lobby néoconservateur qui souhaitait en finir avec Saddam Hussein. Donc, c'est sûr qu'on pouvait aller de ce côté-là. Mais ce n'est pas pour ça que ce lobby néoconservateur est allé planter des bombes pour tuer des milliers d'Américains. Voilà. C'est pareil pour Pearl Harbor. Roosevelt, effectivement, était plutôt favorable à l'entrée en guerre des États-Unis, mais c'est pas lui qui est allé demander aux Japonais de bombarder Pearl Harbor.
Voilà. Qui aurait laissé faire.
Tout est là. C'est pareil, par exemple, pour un autre événement historique considérable, qui était l'incendie du Reichstag en 1933. L'incendie du Reichstag a profité aux nazis, évidemment, qui ont dénoncé les communistes, qui ont arrêté des centaines de communistes. Mais l'incendie du Reichstag a été commis par un militant ultra-gauche illuminé. C'est une vérité, c'est donc pas un complot.
Alors, on a quelqu'un qui nous dit ce qui n'est pas une théorie et qu'il n'y a aucun contradictoire. La soupe est bonne pour ses employés du pouvoir. Donc voilà, vous êtes là pour...
Oui. On est sur Sud Radio, donc il y a de la contradiction sur ces sujets-là.
Mais votre titre, l'opium des imbéciles, est violent.
Non, il n'est pas violent.
Mais vous êtes en train de dire que les gens qui croient ces théories sont des imbéciles.
Non, pas tout à fait. Moi, je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom. Lorsque vous avez des gens qui vous disent, regardant la photo du petit Aylan Al-Kourdi sur une plage de Turquie sans vie, vous disent « c'est un montage », lorsque vous avez des gens qui, envers et contre toutes les preuves, les réponses qu'on peut apporter à leurs questions, s'obstinent dans une lecture conspirationniste et qui parfois, d'ailleurs, souvent, confinent à des lectures du monde xénophobe, raciste, voire antisémite, on est fondé, je crois, à parler d'imbécilité. Si vous voulez, moi, je m'occupe de ces sujets-là depuis plus de 10 ans maintenant. Vous n'imaginez pas ce que j'ai pu voir. On parlait d'Epstein tout à l'heure, cette personne qui dit « non, il n'est pas mort, on l'a enlevé, il est sur une île, et en fait, aujourd'hui, on fait des très bonnes greffes de tête. »
Est au Bahamas.
Et on a dû, lui greffer une autre tête.
Et bon, Elvis Presley n'est pas mort.
Ah, ça, je ne sais pas. Donc, Ben Laden est au Bahamas, mais il s'est fait raser la barbe, je précise.
Oui, j'ai vu ça, c'est dans votre documentaire.
Mais quand même, c'est juste pour finir, c'est un combat. Et dans ce combat, je trouve qu'on a trop longtemps et trop souvent joué en défense. Donc, peut-être qu'il y a une dimension provocatrice dans ce titre-là, mais il se justifie pour plein d'autres raisons. Mais je crois qu'à un moment, il faut aussi pointer du doigt le fait qu'on a des vrais imbéciles qui, effectivement, répandent ces choses-là, croient à ces choses-là. Et l'amitié, c'est de leur dire. De leur dire, là, vous êtes en train de déraisonner.
Oui, mais ils ne vous croient pas. Vous voyez, on a cet auditeur qui nous dit pas de contradiction, vous êtes tous sur la même thèse.
Je peux comprendre l'argument de cet auditeur. Moi, personnellement, c'est là où nous divergeons. Moi, je pense que il faut aller à la rencontre non pas des théoriciens du complot, parce que on ne peut pas les convaincre par définition, parce que un argument chasse l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, concernant le 11 septembre, tous les jours, on va vous affirmer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va d'ailleurs infirmer la thèse précédente, tellement ils veulent penser que ça n'a pas eu lieu, vous voyez. Par contre, ceux qui sont exposés à ces théories du complot sont des gens qui, à mon avis, de bonne foi, doutent des médias officiels, parce que médias officiels disent pas toujours la vérité. Donc au fond, quand tu vois des collégiens, des lycéens qui me disent « Ah ben monsieur, ils ont peut-être raison après tout, parce que franchement, ce qu'on nous raconte, c'est du pipeau », je leur dis « Écoutez, vous avez raison de douter des médias officiels parce qu'ils ne disent pas toujours la vérité. Par contre, c'est dommage de sombrer dans l'erreur, chercher plutôt la vérité, enquêter pour trouver la vérité, plutôt que de sombrer dans des scénarios qui sont trop faciles, trop commodes, et qui vous plongent dans une erreur bien plus grave. »
Et de sombrer dans la crédulité, en fait.
C'est de la crédulité.
Est-ce que tous les complotistes se valent ?
Non,
la question,
si vous...
Dans votre livre, il n'y a pas la même... Parce qu'il y a j'ai découvert, c'est à lire dans votre livre, le platisme qui fait...
C'est du complotisme délirant.
Oui, donc la Terre est plate. C'est une théorie qui prend de plus en plus. Il y a dizaines de milliers de personnes qui sont persuadées.
Mais vous pouvez dire des millions, sans doute.
Millions, oui.
Parce que, effectivement, quand on est extérieur à ça, on se dit, mais c'est délirant, et c'est effectivement délirant, mais eux, eux ne nous voient pas très différemment de ceux qui croient au 11 septembre et qui ne nous croient pas là aujourd'hui, etc. C'est-à-dire que pour eux, c'est évident que la Terre est plate et qu'on est tous dans l'erreur et qu'on nous ment et que les géographes, les cartographes mentent et les astronautes aussi. Donc, au fond, les ressorts d'une théorie du complot aussi caricaturale que celle sur la Terre plate sont les mêmes qu'une théorie du complot beaucoup moins extraordinaire, mais disant par exemple qu'Obama a menti sur son acte de naissance, qu'il n'est pas américain, vous voyez. Sauf que dire qu'Obama a menti sur son acte de naissance, ça a une nocivité politique particulière.
Kenya, selon les
complotistes. Voilà, il y a quand même un discours raciste derrière ça.
Cédric fait une remarque, c'est juste toujours l'extrême droite, jamais l'extrême gauche. C'est pas vrai. Jean-Luc Mélenchon parle d'un complot d'Emmanuel Macron contre lui, c'est un autre.
Hier encore.
Donc c'est toute tendance politique.
Mais le complotisme, on pourrait dire historiquement, le complotisme semble plutôt venir de l'extrême droite, puisque c'était vraiment les éléments contre-révolutionnaires après la Révolution française qui se sont emparés de ces thématiques. Ouais. Mais très rapidement, franchement, le complotisme est devenu transgenre. Enfin, il est passé de la gauche à la droite et allègrement.
Je pense que je vous conseille la lecture du livre de Rudi Rechtstadt. Je suis pas sûr qu'on ait convaincu tous nos auditeurs, mais c'est passionnant à lire. En tout cas, ça donne un éclairage. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, vous argumentez. L'opium des imbéciles, merci. C'est chez Grasset. Et le livre de Christophe Bourseiller, c'est un complot, voyage dans la tête des conspirationnistes, c'est chez Lattès, et c'est surtout à regarder sur la chaîne Histoire. Vous allez regarder, vous serez peut-être pas convaincu, mais ça vous douterez
comme
peut-être.
Les complotistes absolument. Veulent nous faire douter.
Allez, merci à vous, merci Gilles. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.